Il est 9h41, dernier instant M de la semaine.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Arte crée une web-série formidable pour venger l'honneur des nanars. Ces films foirés, absurdes, ces arnaques du 7e art bourrés de trouvailles et de pépites qui font l'objet d'un nouveau culte débridé après leur âge d'or dans les années 70 et 80. Autant de séries B qui auraient dû mourir avec nos vidéoclubs et qui ont ressuscité grâce à YouTube et à la TNT. Oui, oui, je suis très sérieuse ce matin. Le nanar s'impose comme un marqueur des mutations médiatiques, des mutations des productions et de la distribution des images ces 40 dernières années. Bonjour Régis Brochier.
Bonjour.
Vous voyez qu'on prend le sujet très très au sérieux sur France Inter.
Ravi.
Vous avez créé Nanarland, le site des aficionados. Vous réalisez Nanaroscope, 10 épisodes donc en ligne sur le site d'Arte, c'est l'onglet Arte Créative. Ça va charcler. D'abord, Mille et Une Madeleine, ensuite Philippe Vandel, l'homme qui aimait la météo marine. Ça va Philippe ?
Ça va très bien.
Alors, tout va bien, on recommence l'année avec vous.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Alors voilà, c'est vendredi, c'est le retour de l'Instant Madeleine. Après une courte pause la semaine dernière, un mot d'abord sur le déluge de messages que vous nous avez envoyés lors de notre spécial Madeleine la veille de Noël. D'abord, vous avez été des centaines, mais quand je dis des centaines, c'est même au-delà du millier. Voilà, impossible de vous compter un à un à reconnaître la voix de Philippe Meyer. Bravo à Clémence qui est arrivée la première dans ce marathon gigantesque. Ensuite, chaque membre de l'équipe de l'Instant M vous a proposé sa Madeleine de cœur, sa Madeleine perso, et vous les avez goûtées avec bonheur. Catherine, Sarah, vous êtes comme moi, vous avez chanté à tue-tête le générique d'Ulysse 31. Régis Brochier, Ulysse 31.
J'ai chanté à tue-tête aussi.
Merci. Geneviève s'est remémoré tous les chefs-d'œuvre du 7e art que Bruno Donnet a fait revivre avec le cinéma de minuit. Carton absolu pour la météo marine de Philippe Vandel. Ah. Vous avez déchaîné la toile qui l'eût cru, mais oui, votre Madeleine tombant pile le jour où les grandes ondes se sont tues et c'était pas fait.
Et je l'ignorais, voilà, je l'ai appris après.
C'était pas fait exprès. Par-dessus tout, ce sont vos Madeleines, à vous, auditeurs de l'Instant M, qui nous ont enchantés. La musique d'Histoire sans parole, nous écrit Elisabeth, 64 ans. Marie-Christine ne nous donne pas son âge, mais elle aimait tellement Pépin la Bulle. Pierre, comme Daniel, n'ont pas oublié le petit train de la mémoire, l'interlude de l'ORTF. Nathalie nous parle de Tac Tac, émission avec des dessinateurs de BD. Pascal tremble encore de Belphégor qu'il allait regarder chez sa grand-mère. Valérie, elle, c'était Jean Rochefort présentant les aventures de Winnie l'ourson. Je m'arrête là, mais tous vos mails, on pourrait les... D'ailleurs, vous savez quoi ? On les archive et on va vous faire jouer avec. Le jeu recommence, notre adresse, l'Instant M à radiofrance.com, l'Instant M tout attaché sans apostrophe. Question du jour, qui fut le premier présentateur des chiffres et des lettres en 1972 ?
Valérie Vandamme,
9 lettres, avec enculage au pluriel.
Enculage.
Qui fut le premier présentateur des chiffres des lettres, l'Instant M à radiofrance.com. Et Régis Brochier, il a une Madeleine en matière de nanar, le premier,
le déclencheur. Très personnel, le très déclencheur, personnel. Power Rangers, le film.
Oh, oui. Ah oui, quand même. Donc vu à la télé?
Non.
Vu au cinéma?
Non plus, vu en vidéoclub, parce que justement à l'époque il y avait encore des vidéoclubs qui louaient des VHS.
Vous donc l'avez gardé VHS. La VHS?
Bah non, je l'ai rendu, c'était un vidéoclub.
C'est ça.
Du coup,
c'est évidemment.
Et je l'ai rembobiné.
Alors, l'homme qui aimait tant le charabia de la météo marine, c'était donc Philippe Vandel. Vous revenez sur une discussion qui a eu lieu sur Twitter entre Noël et le jour de l'an. Alors moi, personnellement, je me fiche totalement de qui dit quoi sur Twitter, de qui a raison ou pas sur Twitter, mais je me suis dit que c'était quand même l'occasion d'apprendre quelque chose.
Alors, je vais commencer par les faits. On l'a appris fin décembre. Le zapping quitte Canal+, il va passer sur France 2 avec toujours à sa tête Patrick Monnet. Sauf que la presse nous a donné l'info, le zapping change de nom, il s'appellera Vu, car Canal+, a interdit à France d'utiliser le mot zapping. Et oui, c'est Canal qui avait déposé le nom, il leur appartient. Et en apprenant cela, pardon, je me suis dit, bah non, ils sont pas gênés. Et j'ai même fait un tweet sur le sujet, j'ai écrit « Le zapping va renaître sur France 2 sous le nom de Vue, car il y a un litige sur le titre. Question, qui a inventé le terme? Pas Canal+, moi. J'ai écrit moi. J'ai écrit moi parce que ma pomme, ça dépassait les 146. D'accord. Au début, j'avais mis ma pomme. Aussitôt, Michel Denisot poste un tweet. Le zapping est né au cours de l'émission Demain que je produisais. J'en suis le papa et il a bien grandi. Dominique Farrugia, autre ancien de Canal, a également tweeté. Philippe Vandel, j'ai le souvenir que c'est un producteur de l'émission de Michel Denisot qui avait trouvé la formule. Et là, un tweetos belge nous réunit tous les trois. Merde, écrit-il, va falloir choisir son camp, j'ai pas envie. Alors je réponds, tranquillou, il n'y a aucun camp à choisir. J'ai pas écrit que j'ai inventé la séquence du zapping, à ma connaissance c'est Denisot. J'ai dit que j'ai inventé le terme zapping, nuance. J'en suis l'inventeur, comme on dit quelqu'un qui trouve une pièce d'or étrusque, qu'il en est l'inventeur. Bref, le mot zapping est apparu dans un article de 6 pages que j'avais écrit dans le mensuel Actuel en mars 86, donc bien avant l'arrivée du zapping
si
sur Canal.
Vous nous regardez en ce moment en vidéo, Philippe Vandel produit ses archives. Hein,
voilà,
il a
3
le numéro
ans
avec
et demi
lui.
Avant l'arrivée du zapping. Et je vous raconte d'où vient l'histoire. Je faisais une enquête sur les sourdoués et à l'époque, ça rejoint votre émission L'Instant M, on nous serinait que la télévision abrutissait les gens. Or, j'avais trouvé une étude canadienne qui montrait que les meilleurs élèves étaient souvent accros à la télé et qu'ils étaient même capables de suivre 2 ou 3 séries en même temps, en temps réel, tout en faisant leurs devoirs. Question de concentration. Et puis aussi, j'avais rencontré à New York des publicitaires américains qui m'ont expliqué leur nouvelle façon de concevoir la pub depuis qu'une invention avait tout chamboulé la télécommande. Avant, leur job c'était simple. On vous montrait un paquet de cigarettes ou alors un stylo et on vous disait « Voilà, ça c'est très bon, achetez-le ». Sauf que avec la télécommande, comme le type n'a plus besoin de se lever pour changer de chaîne, eh bien une fois qu'il a vu le stylo, clac, il change de chaîne et il ne regarde pas la pub. Donc, les publicitaires ont dû penser autrement. Ils avaient 40-50 ans et ils avaient passé leur jeunesse à lire une BD créée dans les années 30, Buck Rogers. C'est le premier comics de science-fiction. C'est l'histoire d'un aviateur qui est victime d'un crash, qui tombe dans le coma et qui se réveille au 25e siècle. 25. Or, dans l'avion de Buck Rogers, il y a une merveille, un pistolet laser surpuissant, le rayon de la mort qui fait zap. Et toute zap, en français zappé, ça consistait à tuer quelqu'un juste avec ce rayon. Et la hantise de ces publicitaires, c'était que le téléspectateur tue leur publicité avec leur rayon en un clip. Autrement dit, que leur pub soit zappée. Et donc, ils ont conçu des pubs anti-zapping, scénarisées avec un début, un milieu, une fin, si possible drôle, pour que les gens restent devant. Bref, voilà d'où vient le mot zapping. Il a été utilisé par quelques milliers de pros à New York. Et c'est l'article d'Actuel qui l'a popularisé en France, ni plus ni moins. Alors, en 86, j'avais 24 ans. Je n'avais jamais fait de télé, je ne savais pas qu'on pouvait déposer un nom pour faire de l'argent, et c'est peut-être mieux comme ça.
Merci Philippe. Les nanars.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Dix nanars racontés sous forme de documentaire de 7 minutes. C'est drôle, c'est très efficace, c'est très bien mis en image. Régis Brochier, c'est à vous qu'on le doit, cette mini-série sur Arte, sur le site d'Arte. C'est une web-série, vous mélangez des extraits, des analyses d'experts, des récits de ceux qui en étaient. Et ça, c'est extrêmement important, producteur, acteur, metteur en scène. Je vous propose d'entendre, comment les décrire, des nains, des cow-boys nains.
I had to eat beef, so I cook you a nice duck. Good boy. She looks beautiful in the frying pan. This comes from our braised duck.
Voilà. Bah oui, Terror of Tiny Town. Mais oui, c'est un western nain. Tous les personnages sont joués sur des nains, ils sont montés sur des poneys Shetland. Il y a tous les poncifs du western, il y a toutes les figures du genre. Et évidemment, ce qui est très drôle là-dedans, c'est que le décor n'a pas été adapté à leur taille. Donc, naturellement, ils passent sous la porte battante du saloon. Régis Brochier, le premier truc que j'ai compris, car on comprend beaucoup de choses en regardant votre série, c'est que le nanar n'a pas pour intention première la déconne.
Non, le nanar est sérieux. Le nanar, en fait, est fait au premier degré. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est un nanar. C'est la réception ensuite par le spectateur qui est au second degré. Mais le nanar ne marche que quand il est fait avec un premier degré.
Avec une forme d'intégrité, en fait.
Avec une forme d'intégrité que moi, je qualifierais de touchante, en fait.
Absolument, d'assez émouvante. Donc, en fait, c'est toute l'histoire d'un décalage entre le projet du film et sa réception, au final.
C'est exactement ça. Pour moi, ce qui fait la marque d'un nanar, c'est le décalage qu'il y a entre les intentions manifestes du réalisateur, qu'on peut voir à l'écran en tant que spectateur, et la manière, est-ce qu'on voit en fait le résultat final tel qu'il s'affiche et qui est en général complètement décalé par rapport à ce que vous voulez faire.
Mais attendez, mais me dites pas que le réalisateur ne conçoit pas l'absurde qu'il y a à faire passer les cow-boys nains sous la porte du saloon.
Justement, après le nanar aussi est grand parce que on se retrouve devant certains films, on se dit mais pourquoi ? Et en fait, il y a pas nécessairement de réponse. Là, il y a une réponse qu'on suppose un peu presque marketing en fait, qui est de se dire le cinéma, si on fait un nanar, enfin western pardon, que avec des nains, ça va faire venir les spectateurs. Ce qui n'est pas le cas.
Ce qui est tout simplement pas le cas. Je propose d'écouter les cris de douleur d'un flic samouraï au moment où on lui arrache son bras, le tout dans un déversoir sans fin de sang et de ketchup.
Allez, main en l'air ou je vous descends, laisse-le partir.
Bon sang. Voilà, tout dans la sobriété. Et en même temps, Régis Brochier, vous assumez le fait que ce sont des films ratés. C'est-à-dire de Samurai Cop, qu'on vient d'entendre là, vous dites, il rate consciencieusement tout le cahier des charges du film policier de l'époque.
Exactement, ça c'est un intervenant exégète qui le dit. Oui, en fait, c'est des films aussi qui se placent dans une forme d'exploitation de genre qui sont en vogue en fait à l'instant où ils sont faits.
C'est ça.
Et qui essayent de faire comme en fait, mais qui essayent de faire comme sans moyens. Sans talent, faut le dire, et par contre avec une naïveté en fait qui touche. Et Samurai Cop, c'est vraiment ça quoi. C'est un film qui se veut un peu comme L'Arme fatale, mais qui en a absolument pas.
Ça vous a frappé à quel point l'acteur principal que vous avez retrouvé, que vous interviewez, qui a des cheveux très très longs et d'ailleurs qui joue entre la perruque et les cheveux, etc., ressemble à Manuel Valls?
Ah non, j'ai envie de le revoir maintenant.
Revoyez. Quand je disais que c'était une histoire de médias, évidemment, donc c'est des films qui allaient disparaître avec la VHS, et puis c'est l'histoire d'une résurrection 2.0, et ça c'est passionnant.
Ça c'est génial, parce que du coup c'est effectivement... c'est des films qui sont amenés à disparaître, qui existent en fait, qui sont dans le patrimoine cinématographique, qu'on le veuille ou non en fait. Et c'est des films qui ont toujours été méprisés en fait. Si on prend n'importe quelle critique de n'importe lequel des films qu'il y a dans Nanaroscope, je pense qu'à aucun moment on va dire que c'est un bon film dans les critiques de l'époque.
Et même on s'acharne, hein, c'est-à-dire que l'acteur en question, il dit « j'étais un mauvais acteur, c'était un mauvais scénario ».
Voilà.
Et même quand vous parlez de House of Dead, c'est-à-dire que là vous intronisez le plus mauvais, le pire des réalisateurs de la Terre, qui se prend des déferlantes sur Internet, c'est-à-dire les gens le haïssent et les films sont présentés comme « c'est totalement à chier, pardonnez-moi l'expression, mais ça fait pas partie du vocabulaire du genre, c'est totalement à chier, vous allez adorer ».
Oui, c'est ça. En fait, le truc, c'est que on n'est pas dans la glorification. On vient pas dire attention, ces films étaient géniaux.
Ouais.
Non, ces films n'étaient pas géniaux. Par contre, ces films existent et ils ont une histoire. Et ces films disent des choses, notamment sur le cinéma, mais pas que. En fait, ils disent aussi des choses sur la culture populaire, voire même sur la société. Quand on voit les films de kung-fu, par exemple, qui sortaient, il y a 400 films de kung-fu qui sont sortis en moins de 10 ans en France, en version française. Ça veut dire quasiment un par semaine pendant 10 ans, toutes les semaines.
Non mais ça c'est extraordinaire, parce que ça vous le dites aussi, que ça a été une des plus grandes arnaques du cinéma, parce que vous les ménagez pas ces films. C'est-à-dire, Bruce Lee est mort très vite, il a fait très peu de films. Et derrière, vous racontez un truc extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a passé son temps à inventer des faux Bruce Lee, ça s'appelle la Bruce Exploitation, pour tirer sur le film.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, Bruce Lee était mort, mais il y avait encore un public pour ça.
Ouais.
Parce que aussi, il faut se rappeler qu'on a une époque où comment se consomme le cinéma ? Il se consomme dans des salles de quartier. Les gens rentrent, voient une affiche et se disent tiens, ça a l'air bien. Il n'y a pas nécessairement de bande-annonce. Il y a 3 chaînes de télé. Les films de kung-fu ne sont jamais diffusés sur la 1, la 2, peut-être la 3 à l'époque. Du coup, on fait Bruce Lee.
C'est même là, il raconte l'histoire d'un clone de Bruce Lee qui s'appelle Bruce Lee.
Ça donne des clones
Bruce
Lee, L-E-A, Bruce Lee. Enfin voilà, il y en a eu.
On continue dans les films de genre, on écoute un petit coup de ninja.
Qu'est-ce qui s'est passé, ninja? Ninja. Ninja? Le tueur est un ninja?
Ouais, tu dois me croire, Tony.
Mais je te crois. Ninja.
En fait, on s'éclate autant sur les dialogues que sur les doublages, Régis Brochier.
Bah oui, ça fait partie aussi du truc. C'est-à-dire que moi, qui suis un fervent défenseur de la VO, J'avoue que les nanars, pour moi, c'est la VF.
Et ça se consomme en français, bien
parce
sûr.
Parce que souvent, le doublage est à l'avenant. Faut dire ce qui est, un film de ninja comme Clash of the Ninja, on n'allait pas prendre le top de la crème des doubleurs français. Faut le faire sortir en salle.
Et en même temps, ce qui est passionnant, c'est que vous faites aussi un détour par des grands réalisateurs français, Jean-Marie Paillardi. D'ailleurs, c'est génial parce que vous racontez que le nombre de ces films qui ne se sont montés que sur leurs titres. Alors, les films de Jean-Marie Paillardi, par exemple, c'était L'amour chez les poids lourds, L'arrière-train sifflera trois fois, Règlement de femme à au cul. Chorale, etc. Mais il y a aussi tous ces films de Rossiné. Donc ça, c'est des zombies ou des tueurs cannibales à la française. C'est tourné dans l'Oise et c'est hyper franchouillard.
Ouais, mais c'est ça que c'est aussi là-dessus que la série, moi, elle me tient à cœur. C'est que c'est des films, en fait, quand on en parle au commun des mortels, en fait, ils n'imaginent pas. Si on leur dit, il y a un film de zombies nazis qui a été
tourné.
Oui, mais où ? Dans l'Oise, par une société de production française. D'un coup, le paradigme, en fait, il explose, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on les repères, les films de cannibales qui tournaient à Benidorm, toujours par la même équipe Eurociné, qui descendait en camion à Troyes pour faire tourner des cannibales. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient l'assistant chercher des gitans. Ils disaient, ramène-moi des gitans.
Le plus poilu possible.
On va leur faire des traits de peinture et puis ça nous fera des cannibales.
Et alors, il n'y a pas que ça aussi. Ils racontent comment ils ont pris un cochon, ils lui ont découpé le ventre à l'âche, ils lui ont mis un jean et une chemise parce qu'il était censé, Et il y a tous ces faux cannibales qui se ruent sur ses entrailles, qui en sortent des merguez bourrées de ketchup. Et évidemment, la séquence se termine. Enfin, le tournage se termine dans une séance de vomi généralisé, évidemment. Etc. Mais en même temps, ce qui est assez extraordinaire, c'est quand on raconte que la donne du nanar, c'est d'être très minimaliste pour cacher le manque de moyens. Et que là, il y a cette naïveté folle de faire croire que on va pouvoir donner le change.
C'est ça, en fait. C'est en fait finalement la série B, parce que justement, ça a dissocié du nanar. La série B, c'est des films qui sont un peu...
Des films de genre,
des films à l'économie, mais qui jouent justement de ce manque de moyens. Et souvent... Les bons films de série B sont des films malins.
Très inventifs.
Et qui jouent avec les limites budgétaires, avec les contraintes. Et le nanar, effectivement, souvent, ne tient absolument pas compte de ces limites.
Ça se fracasse la tête contre le mur directement.
Voilà, parce qu'il fait abstraction du fait qu'il y a des limites et il essaye d'aller jusqu'au bout de son idée. Donc, c'est-à-dire plein de personnages, plein de décors, des intrigues, mais on n'y comprend rien. Enfin, voilà, c'est.
Et parfois, des dialogues qui ne verront jamais le jour parce que les acteurs sont tellement mauvais qu'ils sont incapables d'improviser ce que les scénaristes n'ont pas réussi à écrire et ça donne quasiment des films muets. Merci beaucoup. Nanaroscope, c'est la web série à découvrir sur le site d'Arte, dans l'onglet Arte Créative. Nanarland, c'est le site d'infos incontournable. Chapeau à toute mon équipe préférée, Violaine Baleine, Cécile Perrin, Redouane Tella, Julien Dumont aux manettes. Ce matin, Ali Rebéi, vous me faites passer pour un monstre. À chaque fois que vous testez les sujets, de grand bien vous fasse sur moi, je passe pour celle qui fume, qui fait pas de sport, qui mange de la viande. Bref, et qui n'aime pas Noël. Bonjour.
Alors ce matin, on s'intéresse au luxe, mais vous verrez ce matin que le luxe peut être synonyme de simplicité et de minimalisme. Nous recevrons Dominique Leroux qui nous expliquera tout ça. Vous pouvez nous donner votre idée du luxe sans ostentation qui rime avec simplicité au 01 45 24 7000.
Voilà, et nous avons un gagnant du jeu qui a préféré rester anonyme, donc on ne donnera pas son nom. Il fallait reconnaître Patrice Laffont. Bonne journée à tous.